Bienvenue, messieurs, dames, vous êtes en direct du studio Kalangou. Il est 18h, l'heure du journal en français, vendredi 24 janvier 2020. Bonsoir à tous, voici les titres. Lancement ce matin de la fête de la République du 18 décembre prévue cette année à Diffa. Conteste sécuritaire oblige, les travaux des infrastructures débutent plus tôt. Le Premier ministre a donné aujourd'hui le premier coup de pioche de Diffa Ngala. On en parle dans un instant. Plus de 243 milliards seront investis dans les 6 prochains mois dans le projet renforcement de la cohésion sociale et du développement des communautés de la région Nord-Tillabéri. Les explications du préfet du département de Bankilari dans ce journal. L'exploitation des enfants talibés, une pratique décriée, c'est le magazine en fin d'édition. Le développement de tous ces titres et bien d'autres. Diallo Mariama Kenda au micro. Le Premier ministre a été à Diffa ce matin où il a donné le premier coup de pioche des travaux de préparation des infrastructures de la fête de la République du 18 décembre 2020, appelée Diffa Ngala. Le chef du gouvernement, Brigitte Raffini, parle des infrastructures à réaliser. On l'écoute au micro de Lawan Boukar.
Il est prévu la voirie, l'assainissement, la réhabilitation des infrastructures culturelles et sportives, la construction d'une résidence présidentielle et d'une cité, la construction d'une tribune officielle, la construction d'infrastructures universitaires, l'aménagement des places publiques, d'espaces verts, etc., etc. Il ne fait aucun doute que la mise en œuvre du programme Diffa Ngala confortera Diffa dans son rôle de pôle de développement régional. Il permettra également la création de milliers d'emplois directs et d'autres milliers d'emplois indirects, donc de la redistribution du revenu, au profit notamment des jeunes, des acteurs économiques et de divers autres corps de métiers locaux mobilisés à l'occasion. Nous allons tout faire pour que Diffa Ngala soit le meilleur.
Renforcement de la cohésion sociale et du développement des communautés de la région Nord-Tillabéri, c'est le nom d'un projet lancé hier à Tillabéri par la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix HCP, estimé à plus de 243 milliards et destiné pour 9 communes du Nord-Tillabéri. Ce projet permettra de réduire les conflits intercommunautaires, a déclaré Barmini Kaboué, préfet du département de Bankilari. Il est interrogé au téléphone par Adama Dawaki.
L'insécurité était à la base d'éclatement du tissu social, notamment dans les communes de Filangé, Abala, Banebangou, Bandikundi, Gorwal et Bankilari. L'objectif principal de ce projet, c'est de réduire l'occurrence des conflits intercommunautaires dans la zone nord de Tillabéri. Et pour cela, beaucoup d'activités ont été programmées. L'organisation des caravanes de sensibilisation à l'intérieur de ces communes dont je vous avais cité tout à l'heure, mais aussi répondre de façon prête aux sollicitations des populations pour amoindrir la résilience. Il y aura, selon ce que la population va demander, des récupérations des terres, mais aussi des activités génératrices de revenus pour pallier le déficit causé surtout par les mouvements de population suite à cette insécurité. À la fin, cette résilience qui assaille nos populations sera totalement résorbée.
Un mort, des greniers et un hangar brûlé dans l'attaque de bandits samedi dernier du village de Iawa, commune de Gabi. Malheureusement, selon le maire de cette commune, de jeunes villageois ont tué un vieillard et brûlé son campement. Les explications du maire Kané Dammalan, interrogé au téléphone par Mohamed Maman.
Les bandits armés ont tué une personne, ils ont blessé une autre. Ils ont même brûlé des greniers, des hangars, des maisons. La population s'est mobilisée ils ont riposté et avec l'aide aussi de la patrouille départementale, ils ont pu repousser les assaillants.
Parmi les bandits armés qui sont venus dans les villages, il y a des gens peu connus comme êtres du village et la population a voulu se venger.
C'est vrai, ils ont pu arrêter quelqu'un. La vérification, le monsieur, il a cherché même à porter secours aux populations de Giawa. En entre-temps, ils ont vu quelqu'un aussi. Lui, quand il a vu les gens, il a fui. Et ils l'ont poursuivi, ils l'ont abattu. C'est le père de l'enfant qui a été arrêté. Et il y a eu des personnes arrêtées parce que ces messieurs se sont livrés à brûler les maisons des éleveurs qui sont autour de leur village.
Le 10 janvier, trois terroristes, dont un cadre logisticien, ont été mis hors combat au nord de Mopti, au Mali. Entre le 14 et le 15 janvier, au sud de Mopti, une trentaine de djihadistes ont été mis hors de combat, une vingtaine de motos détruites et une grande quantité de matériel de téléphonie saisi. Le 19 janvier, à proximité de Tindembawen, au Mali, non loin d'Inates, au Niger, un drone armé a permis de détecter puis de neutraliser cinq terroristes armés. Ce sont là des informations publiées hier dans un communiqué de presse par les services de communication de l'opération Barkhane au Sahel. La ministre française des armées, Florence Parly, attendue lundi à Washington, tentera de convaincre le Pentagone de ne pas retirer les moyens militaires au Sahel. Précieux soutien des troupes françaises aujourd'hui sous pression pour obtenir des résultats dans la lutte anti-djihadiste. C'est ce que rapporte une dépêche de l'AFP de ce matin. Un retrait américain d'Afrique de l'Ouest constituerait un coup dur pour les 4500 soldats français de l'opération Barkhane déployés au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Washington fournit à Barkhane des capacités de renseignement et de surveillance grâce à ses drones, du ravitaillement en vol et du transport logistique pour un coût de 45 millions de dollars par an, précise la dépêche. Hier après-midi, dans un centre de santé intégré CSI de Niamey, une jeune fille de 16 ans aurait donné la mort à son nouveau-né juste après la délivrance. C'est d'après une source sanitaire. Précisons que cette jeune fille travaille comme domestique et vit au quartier Bandabari. Présentement, l'adolescente serait entre les mains de la police, selon la même source. Formation la semaine passée à Dosso à l'intention des couches socio-professionnelles sur la bonne gouvernance, une initiative du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAP, qui a pour vocation d'amener les gouvernants à respecter leurs mandats électoraux, a déclaré Bouraïma Abdou, président régional de MAP. Il est au micro de Aoussi Abdourahmane.
Le MAP est un outil à travers lequel on voulait, ou disons on voudrait faire en sorte que dorénavant les États démocratiques puissent respecter les tests fondamentaux sur la base desquels ils sont élus. D'amener tout un chacun à être conscient, d'amener également les gouvernants à respecter les constitutions, à respecter leur mandat. Voilà en quelque sorte le but visé par le MAEP. Nous voulons faire une cuire sur tous les aspects, que ce soit l'aspect social, politique, économique et autres.
La biométrie, un terme très utilisé ces derniers temps au Niger, on parle de permis biométrique, d'enrôlement biométrique et même de carte d'identité biométrique. Tous ces termes comportent une certaine confusion que nous éclaircit l'informaticien Massani Koroné, joint au téléphone par Fanta Chamsou.
D'une manière générale, le mot biométrie signifie littéralement mesure du vivant. Il désigne dans un sens très large l'étude quantitative des êtres humains. Parmi les principaux domaines d'application de la biométrie, on peut citer la biométrie électorale, la biométrie pour les permis, on peut citer l'agronomie, l'anthropologie, l'écologie, la médecine, Parce que tous ces termes-là sont utilisés dans la mesure où tout tourne autour de l'identification de l'homme. Identification unique parce que souvent les identifiants posent problème. Dans les services sensibles, tels que les services de sécurité, les gens utilisent toujours la biométrie pour s'identifier. L'empreinte digitale, par exemple. Il y a des services, quand vous allez, vous appuyez votre pouce sur un bouton pour que vous autorisez à passer. Ça veut dire qu'on a enregistré votre pouce en photo comme identifiant. Donc, c'est lui qui vous permet d'ouvrir la porte.
À Gaïa, la lutte traditionnelle occupe une place très importante dans le quotidien de la jeunesse. C'est ce qu'expliqueraient les bonnes performances des lutteurs de Gaïa au cours des compétitions régionales et nationales. C'est ce que nous explique Bilo Jibo, directeur départemental de la jeunesse et des sports de Gaïa. Il est au micro de Fadel Alou.
Chaque année, Gaïa a obtenu au moins plus de 50% des lutteurs sélectionnés au titre de la région. Cette année, sur les 20 lutteurs qui ont été retenus pour représenter la région à la 41e édition du Sabre National, donc il y avait 15 lutteurs du département de Gaïa. C'est la source d'approvisionnement des autres départements de la région. Ce qui veut dire que même les autres qui se sont qualifiés au titre des autres départements, il y a beaucoup qui viennent encore du département de Gaïa. Cette année en est un exemple palpable. Le vainqueur du Sabre National de la 41e édition, il est originaire du département de Gaïa. Ce qui veut dire que les jeunes s'adonnent à la pratique de cette discipline. Si les autres régions ou les autres départements attendent toujours la veille, n'est-ce pas, du Sabre National pour préparer leurs lutteurs, à Gaïa, c'est le quotidien de la jeunesse.
Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangou.
J'aime et je partage.
La deuxième partie de ce journal, la partie magazine. Certains marabouts confinent les enfants talibés dans des travaux physiques ou dans la mendicité à leur profit. Ces pratiques sont jugées contraires aux valeurs sociales et islamiques et dénoncées par bon nombre d'observateurs, suivant ce reportage d'Asmana China.
Certains marabouts ont démissionné de leur principale mission, celle d'instruire les enfants que des parents ont confiés à leurs soins, constatent des observateurs. Pendant la saison des pluies, les talibés travaillent dans les champs pour leur maître et en ville, ils sont utilisés pour ramener un peu de recettes à mendiants. Pourtant, ces pratiques ne sont ni acceptées par la société ni par la religion musulmane. Mustapha Ahamadou, secrétaire général de l'association islamique Fosia.
Cette pratique n'est ni une mendicité, ni un acte qu'on peut qualifier de social ou humain. Même si c'est de mendicité, c'est réprimé par l'islam. Et ceux qui font ça, c'est qu'ils ignorent non seulement la dignité humaine, ils ignorent ce que l'islam réserve par rapport aux enfants. Avant la communauté, les parents ont la charge d'assurer jusqu'à un certain âge à leurs enfants tous les services possibles et les protéger contre certains abus. Parce que le professeur Lalassane a dit que celui qui nous triche, celui qui nous persécute n'est pas des nôtres. Donc les enfants ne méritent pas ça.
Pour les défenseurs des droits des enfants, cette utilisation des enfants par certains marabouts n'est autre que de l'exploitation. Mahamadou Moussa, président de l'association pour la lutte contre le travail des enfants au Niger, Alten.
Le phénomène, tous les cas où les enfants sont obligés d'aller faire des recettes, que ce soit en termes monétaires, que ce soit en termes de biens pour amener à leur marabout, eh bien ça devient de l'exploitation. Et cette exploitation-là, il faudrait lui donner une prolongation judiciaire pour le marabout, mais accompagné d'une prolongation sociale pour les enfants.
Selon Dr Moussa Zangaou, enseignant-chercheur à l'Institut de recherche en sciences humaines IRCH de l'Université de Niamey, cette exploitation des enfants talibés contribue à la destruction de la société.
C'est une question assez complexe parce qu'elle est portée par un responsable, respecté à cause de son statut, mais qui livre à la société des jeunes qui, pour la plupart, développent par la suite des comportements dangereux à la société. C'est clair, lorsque vous produisez de mauvais éléments, de mauvais résultats, en tant que formateur, en tant qu'instructeur, eh bien, vous empoisonnez la société, vous participez à la destruction de la société. Le formateur doit être un modèle, doit être un exemple. C'est comme ça qu'on peut effectivement produire une relève aussi responsable.
Beaucoup d'observateurs pensent que cette situation est née du fait que l'État n'a pas accompli sa mission de maintenir ses enfants dans leur village et à l'école. Pour faire face au phénomène, ces observateurs recommandent que des mesures fortes soient appliquées.
Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Place à présent au forum de la presse, comme tous les vendredis. Ce soir, Nafissa Adamou Sirfo recevra pour vous les confrères.
Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangou.
J'aime et je partage.